And now, two pigeons bemoaning the fact you can stream DirecTV satellite-free.
Hey, Frank, a little birdie told me you don't need a satellite dish to get DirecTV.
What's little birdie?
Was it Jimmy the Sparrow?
It's a figure of speech. Point is, you can stream DirecTV over the internet now.
Oh, sure. Next you're going to tell me those big birds are made of metal and filled with people, right?
You mean airplanes?
Stream DirecTV without a satellite dish. Call 1-800-DIRECTV. Terms or restrictions apply.
Looking for the best place to buy tickets for any of your favorite teams or sporting events? We've got the spot. Our partner, StubHub, has been the leading ticket marketplace in the world for over 20 years, providing a 100% guarantee with every order. From a worldwide selection of live events, the widest choice of tickets, and industry-leading partnerships, StubHub has what you need to purchase with confidence. StubHub, an official partner of The Athletic.
Bonjour tout le monde, bienvenue au Super Athlétique, votre podcast portant sur les Canadiens de Montréal. Je suis Marc-Antoine Godin en compagnie de Arpin Basu. Arpin, on se frisquait vendredi, privé d'internet en certains moments. Comment vas-tu aujourd'hui?
Ça va bien, au moins on est en onde.
Oui.
Ben, en quelque sorte en onde, en tout cas sur l'internet. Oui, nous deux, on est des clients de Vidéotron qui étaient en panne un peu partout au monde. Alors c'est pour ça que le podcast est un peu en retard en ce vendredi froid, mais en tout cas, on est là et on a beaucoup de choses à discuter.
Ben oui, aujourd'hui, on va parler d'une équipe qui a été en retard dans les derniers matchs.
Oui, puis qui est pas mal froid aussi.
Oh my! Ben oui, je pense qu'aujourd'hui, c'est clair qu'il faut qu'on revienne, d'une part, sur la défaite d'hier, de jeudi contre les Oilers d'Edmonton, mais de manière un peu plus générale, de ce qu'on pourrait appeler peut-être une glissade lors des quatre derniers matchs. Évidemment, il y a eu une victoire dans le lot face aux Sénateurs d'Ottawa, mais pour paraphraser à l'envers René Lévesque, c'est une victoire qui a l'air d'une défaite et non pas une défaite qui a l'air d'une victoire. Mais sauf que c'est ça, depuis quatre matchs, clairement, les Canadiens ont plus de difficultés. Donc, je pense que ça vaut la peine qu'on explore un peu plus en profondeur cet élément-là. J'aimerais ça aussi. On va revenir également sur tout le cas de la COVID-19 qui s'est en quelque sorte invité au Centre Bell avec la visite des Oilers d'Edmonton. Les questions de protocole de santé, de protocole de prévention de la Ligue. Est-ce que la Ligue en fait suffisamment? Puis est-ce que jusqu'à quel point la division canadienne est à l'abri? Parce que jusqu'à maintenant, elle a été épargnée de ces questions-là par rapport aux autres divisions de la Ligue. Je rappelle à tout le monde également qu'on va avoir notre minute du patrimoine où on va chacun aborder, Arpin et moi, on va discuter d'un angle concernant une équipe de la section canadienne, justement. Et puis, on va répondre à vos questions. Vous avez été encore nombreux à nous envoyer des messages sur notre boîte vocale. Donc, on va répondre à deux de vos questions. Alors ça, c'est chouette. Mais tout d'abord, à tout seigneur, tout honneur, Arpin, les quatre derniers matchs, quand tu regardes la façon dont le Canadien joue, qu'est-ce qui te saute aux yeux en premier lieu par rapport à la façon dont les quatre derniers matchs se sont déroulés comparativement, si tu veux, aux 10 premiers?
En fait, pour être bien honnête, ce qui saute aux yeux, c'est le fait qu'on parle d'une équipe qui est quand même neuf dans le sens où il y a tellement de nouveaux joueurs, il y a des nouveaux éléments. On a changé le look pas mal du Canadien, sauf que aussitôt qu'ils ont fait face à un petit problème contre les Sénateurs d'Ottawa, ça a l'air d'être les mêmes Canadiens que l'année passée, d'une quelque sorte. Pas assez de chance dans l'enclave. Juste du jeu un peu décousu, comme on dit, tu sais, c'est comme si on sont juste pas bien synchronisés. Mais surtout, la tendance de tirer de l'extérieur ou de la périmètre, puis pas assez de tirs en provenance de l'enclave. Parce que même si l'équipe est neuve, avec beaucoup de nouveaux éléments, il y a quand même le même système qui est en place. Puis aussitôt que, il me semble que cette équipe-là, ce qui arrive souvent, c'est que s'ils ont un petit bout où ils connaissent un peu de succès, les équipes adverses commencent à connaître leurs tendances puis commencent à employer des stratégies pour effectivement leur pas permettre de faire ce qu'ils tentent de faire. Et aussitôt que ça arrive, il n'y a pas de plan B. Alors, c'est ça qui me sautait, particulièrement les deux derniers matchs là, contre Edmonton et Toronto, c'est que c'était une équipe qui avait l'air de ne pas avoir de réponse ou de solution. Et ça, c'est un peu inquiétant, non seulement parce que je suis sûr que le Canadien va finir par gagner un match à un moment donné, c'est certain, c'est une bonne équipe, mais t'aimerais ça voir des ajustements un peu plus rapides de la part du personnel d'entraîneur puis l'entraîneur-chef en particulier.
Mais il n'y a pas seulement que l'autre équipe s'ajuste au Canadien, mais il faudrait aussi que le Canadien identifie chez l'adversaire certaines de ses tendances et puisse les exploiter de la même manière que l'adversaire exploite les siennes. Ça n'a pas besoin d'être une dynamique à sens unique. Là. Je veux dire, normalement, on considère Claude Julien comme étant un des bons coachs de la Ligue nationale en termes d'ajustement. Je pense qu'il devrait se montrer proactif. Mais effectivement, depuis que les sénateurs d'Ottawa ont trouvé le moyen de ralentir les Canadiens, entre autres en sortie de zone, au moment de se regrouper, de lancer la contre-attaque puis de prendre la vitesse en zone neutre, ça avait été tellement une arme pour les Canadiens dans ces 10 premiers matchs. Les sénateurs ont trouvé une façon d'étouffer la menace. Après ça, ça a été la visite des Maple Leafs de Toronto qui, je pense, en ont surpris plus d'un par rapport à la qualité de leur jeu défensif. Ils sont beaucoup moins... ils ont été beaucoup moins généreux, beaucoup plus frugal que les Maple Leafs de Toronto auxquels on est habitué. Et les Oilers d'Edmonton, je pense qu'il y avait des opportunités là à aller chercher. Il y avait des gains à faire. Claude Julien, quand on lui a parlé plus tôt aujourd'hui, il disait on tirait de loin. Il n'y avait pas vraiment beaucoup d'options de retour de lancer parce que les retours étaient trop longs.
Mm-hmm. Ouais.
Je veux dire, ouais, écoute, à un moment donné, je dis, est-ce qu'il faut prendre un tape à mesurer et dire, ah, mais là, il faut que le retour soit entre 100 et 450 cm pour qu'il soit juteux. Je veux dire, ça devrait quand même, si le Canadien a de la misère à se rendre jusqu'au demi-cercle du gardien, ben, un long retour, ça veut dire qu'il devrait être en mesure encore plus de pouvoir sauter dessus. Et ça a été frappant de voir à quel point le Canadien a eu de la difficulté à sauter sur des retours de lancer. Il y a eu Paul Byron et Brendan Gallagher après le match qui ont utilisé l'expression en anglais. Ils ont dit on était très souvent one and done, c'est-à-dire un tir au but, puis après ça, l'attaque meurt de sa belle mort. Puis ça m'a vraiment rappelé les beaux jours de Max Pacioretty, parce que dans les années où le Canadien n'était pas capable d'acheter un but, c'est une expression qui revenait souvent dans la bouche de Pacioretty.
Ben, ce qui me dérange là-dedans, c'est que, tu sais, quand il a affronté les sénateurs d'Ottawa, Claude Julien a fait référence au fait que Matt Murray, quand il jouait avec les Pingouins pendant les séries ou pendant l'avant-série en été, qu'effectivement, les Canadiens ont eu beaucoup de succès en tirant d'un peu partout, puis aller chercher les retours de lancer, même pas les retours, mais les rondelles qu'il laissait traîner à côté de ses pieds. Puis en fait, c'était assez évident dans la bulle que Matt Murray avait une lacune là-dedans. Mais l'autre chose, c'est que l'équipe que Claude Julien avait sous la main dans la bulle n'est pas la même équipe qu'il a aujourd'hui. Et ça serait mieux de... Ça serait peut-être mieux de ne pas toujours se fier sur les lacunes du gardien adverse ou les retours de lancer. Tu sais, il parlait d'Edmonton, comment Mike Smith, il a réussi à quasiment rediriger les retours de lancer plus loin.
Oui.
Pour effectivement contrer leur stratégie d'aller chercher les retours de lancer qui sont dans l'embouchure du filet directement devant lui. Mais le but devrait être de créer des tirs dangereux qui ont le potentiel de marquer eux-mêmes. T'sais, c'est comme juste marquer avec un beau jeu qui donne un tir qui va te donner un but au lieu de constamment répéter la même chose, de tirer de loin puis essayer d'aller chercher. C'est une stratégie d'une équipe qui manque du talent offensif. Tu sais, c'est une stratégie où si tu n'as pas assez de joueurs avec de l'imagination offensive, la créativité, des habiletés, que oui, tu peux faire ça, puis en fait, de l'avoir fait dans le bulle avait tout le sens au monde parce que cette équipe-là était pas bien garnie, il manquait de profondeur, il manquait de talent et avait vraiment pas une bonne chance de vaincre les Penguins de Pittsburgh. Alors, ils ont trouvé une façon de le faire, tant mieux. Mais ça ne veut pas dire que la même stratégie devrait s'appliquer aujourd'hui avec une équipe qui est pas mal différente. Là, je pense que le Canadien a le potentiel de créer des jeux offensifs qui sont plus dangereux qu'un tir de la pointe de Joel Edmondson, puis en espérant d'aller chercher un retour. Je pense qu'ils ont assez de gars pour faire en sorte que si tu crées des jeux en bas de zone, puis je sais que Claude Julien a fait référence du fait que les équipes adverses ils ont un système défensif pour effectivement avoir un surnom en bas du zone pour forcer les Canadiens de sortir de cet espace-là sur la glace, mais il y a beaucoup d'autres espaces sur la glace à part la ligne bleue. Tu sais, si les équipes sont en train de faire ça, tu dois trouver des autres couvertures et c'est pas nécessairement des tirs de la pointe qui est la seule option que l'équipe adverse donne. C'est pas vrai. Il faut juste avoir un bon mouvement de rondelle, un peu de créativité, du mouvement de personnel, point. Pour trouver des ouvertures, mais je trouve que les Canadiens en ce moment, c'est trop facile pour eux autres d'aller le rejeter à la ligne bleue, puis tenter un tir de la ligne bleue, puis aller au filet, puis espérer un retour de lancer. Là. C'est bien correct comme stratégie de temps en temps, mais de le faire constamment quand tu as autant de talent offensif que les Canadiens ont, je pense que ça manque l'imagination un peu.
Ce qui est drôle, c'est, je t'écoute, puis j'ai l'impression que tu me parles d'avantages numériques.
Ouais, c'est ça.
On dirait que c'est les défauts qui sont identifiés depuis longtemps à l'avantage numérique, c'est-à-dire des tirs qui proviennent de la périphérie, qui proviennent trop souvent de la ligne bleue, et puis effectivement pas suffisamment de jeux qui sont construits à courte distance, puis pas vraiment de menaces et d'un déplacement de rondelle qui finalement ouvre de nouveaux corridors de tir puis de nouveaux corridors de passe. On dirait que là, ces mauvais plis-là ont été appliqués au jeu à force égale. Puis pourtant, normalement, le Canadien, par les années précédentes, était quand même assez bon pour se générer des chances de marquer. Son problème, c'était simplement d'enfiler l'aiguille. Se créer une chance, c'était bon. C'est juste que avoir la touche finale pour pouvoir capitaliser sur ces chances-là, ça posait problème. Sauf que je pense que l'ajout de Toffoli et de Anderson devrait aider en ce sens-là. On encourage beaucoup plus Jesperi Kotkaniemi à tirer. Je pense que Jonathan Drouin se fait passer le message qu'il doit tirer aussi davantage. Il le sait, puis je pense qu'il y a de la misère à le mettre en application. Mais bon, il y a... c'est envoyer des rondelles au final, mais en même temps, je suis tellement d'accord avec toi que ton premier lancer doit être en lui-même une tentative de marquer. Parce que si, évidemment, ça dépend toujours un peu des angles, mais dans de nombreux cas, si ton tir est suffisamment menaçant pour être une chance de marquer, il va donner des misères au gardien de but pour qu'il l'arrête, puis ça va en soi probablement mener à un retour de lancer. Donc, il faut que tu essaies de scorer aussi sur ta première occasion avant d'en avoir une deuxième. Là.
Ouais, puis l'autre chose que je pense, ce qui est en train d'arriver avec le Canadien, tu parles de leur tendance à créer des bonnes opportunités de marquer, puis c'est vrai. Mais ce que ses adversaires sont en train de faire, en tout cas, ce que les Maple Leafs et les Sénateurs ont fait très bien, un peu moins les Oilers, c'est que... Il prend soin de la rondelle. Ils sont responsables avec la rondelle. Les revirements en zone neutre sont inexistants en ce moment. Et tellement de l'offensive du Canadien est basée sur le fait qu'ils vont forcer ces revirements-là. Puis en contre-attaque, c'est là qu'ils vont avoir leur opportunité de marquer. C'est là où ils vont créer beaucoup de leur offensive. Et c'est là où ça va être leur meilleure chance. Mais quand tu élimines cet aspect-là, En prenant bien soin de la rondelle, en faire un peu de dump and chase au lieu d'essayer de faire des jeux en zone neutre, ça empêche le Canadien à créer ces revirements-là, ça empêche leurs opportunités de contre-attaque. Et une fois qu'ils sont limités à seulement jouer offensivement en zone offensive, c'est-à-dire faire le cycle, faire des choses comme ça dans zone offensive, je trouve que tu vois un peu les failles offensives de cette équipe-là parce que en transition et particulièrement en créant des revirements, c'est une équipe très dangereuse offensivement. Mais quand c'est juste du jeu en zone offensive, puis il faut créer quelque chose là-dedans, on voit à quel point ils n'ont pas les outils, dans le fond, ou ils n'ont pas peut-être... ils n'ont pas des bons tactiques pour effectivement créer cet espace-là et créer ces chances-là. Quand tu as 10 joueurs dans une zone et il faut créer de l'espace, puis il faut trouver des moyens de créer un peu de confusion dans l'adversaire défensivement. Et c'est ça qu'il ne réussit pas à faire. C'est à cause, je pense, c'est grandement à cause du fait parce que ils ont eu cet autre aspect-là de leur jeu offensif a été enlevé par ces deux adversaires-là en particulier. Parce que si tu penses au match des Oilers, Nick Suzuki avait une échappée très tôt dans le match. Super bonne passe de Jean-Antoine Drouin qui a pourtant connu une super bonne première période en termes de créer des chances, effectivement. Mais quand Suzuki a eu l'échappée, je me suis dit, waouh, ça fait longtemps qu'un Canadien n'a pas vraiment eu un échappée. Puis il y en avait comme quoi, deux par match pendant les 10 oui. premiers matchs. Suzuki n'a pas réussi à marquer. Ce jeu-là, plus souvent que non, il y avait le résultat d'un but. Plus tôt dans la saison, cette fois-là, Mike Smith a fait quand même un bon arrêt là-dessus. Mais le Canadien est rendu à un point où ça aurait pu vraiment changer l'allure du match, même si on marquait en premier contre les Maple Leafs. Créer cette opportunité-là avec une échappée, le Canadien génère plus des chances comme ça aussi souvent qu'il le faisait avant, ce qui est normal d'une certaine façon, mais le système elle-même doit être capable de forcer des revirements, de forcer des erreurs de l'adversaire parce que c'est là où les Canadiens sont à l'air plus dangereux. Et s'ils ne sont pas capables de faire ça, si leurs adversaires vont mettre vraiment l'emphase sur la responsabilité avec la rondelle, il va falloir que les Canadiens changent un peu leur stratégie en zone offensive dans un jeu un peu plus statique pour créer ces situations-là où tu peux créer des erreurs défensives de l'adversaire mais en zone offensive au lieu d'en zone neutre. Et c'est ça un peu où ça fait défaut parce que le Canadien est plus ou moins facile à défendre comme adversaire en ce moment.
Mais dans une saison où les entraînements... Ben, la semaine prochaine, le Canadien a une opportunité en or. Il y a une semaine pratiquement sans jouer. Alors, il va avoir plusieurs séances d'entraînement à Brossard. Si on veut amener des nouveaux éléments au niveau de la structure, au niveau de la stratégie, puis de les implanter, puis de savoir, puis de trouver, de se donner des outils pour contrecarrer les plans de l'adversaire. Je pense que la semaine prochaine, c'est l'occasion parfaite de le faire. Parce qu'après coup, on est tellement dans un environnement où les entraînements vont être limités. Le temps sur la glace, en général, va être limité. Je pense qu'à compter de maintenant, les meetings vidéo vont se faire de manière virtuelle à cause des nouvelles mesures qui ont été implantées par la Ligue nationale. Mais de manière générale, j'ai l'impression que le train a quitté la gare. Puis dans un train en marche, là, de pouvoir changer ce type d'élément-là, si tu commences à jouer avec le fondement de ton système de jeu dans au plein milieu de la saison, ça peut être risqué. Puis je pense que Claude Julien lui-même, je pense qu'il sentait un peu de l'inquiétude ambiante, puis il disait, écoutez...
La grogne,
oui, absolument.
Ouais, il sentait la grogne.
C'est pas parce qu'on est... C'est pas après 14 matchs dans une saison et après 4 matchs difficiles qu'on va se mettre qu'on va jeter le système de jeu aux poubelles. L'idée, c'est davantage de dire, bon, de quelle manière on peut s'y prendre pour pouvoir sortir de ce mauvais pas-là le plus rapidement possible. Par ailleurs, Harpin, dans des épisodes précédents, je me souviens très bien que tu m'as dit, écoute, moi, je suis content de voir ce que Marc Bergevin a fait avec sa brigade défensive. Il est allé un peu contre la tendance populaire. Au lieu d'y aller avec de valoriser des défenseurs qui étaient hyper mobiles et vraiment axés sur l'offensive, Il a décidé d'y aller avec des défenseurs un peu plus gros format, qui sont peut-être pas les plus mobiles, mais qui vont présenter une différente sorte d'opposition. À la lumière des derniers matchs, comment tu trouves cette brigade défensive-là quand tu penses à Edmondson, quand tu penses au duo Weber-Sherratt? Peut-être on peut inclure aussi Alexander Romanov qui n'a pas toujours des matchs faciles à sa première saison. Mais est-ce que la brigade défensive « big and ugly », comme l'appelait Brian Burke, comment tu la trouves?
Ben, c'est sûr qu'en ce moment, tu sais, le duo le duo Sherratt-Weber connaît des difficultés. Il n'y a aucun doute là-dessus. Les 4 contre 4 contre les Maple Leafs, encore une fois contre les Oilers, il connaît un peu de difficultés. Ça ne veut pas dire que c'est un mauvais duo tout d'un coup. Et ça ne veut pas dire que c'est des mauvais joueurs tout d'un coup. Mais en ce moment, depuis quelques matchs, Ben Sherratt en particulier, à mon avis, connaît beaucoup de difficultés. Il a un passage un peu moins bon. Chez Weber aussi. Joel Edmondson, j'ai aucun problème avec. En fait, le plus que Joel Edmondson joue, le moins de problèmes que j'ai avec lui. C'est, je trouve qu'il s'ajuste pas mal bien à son environnement. Il s'ajuste à Jeff Petrie comme partenaire de défense. T'sais, c'est sûr qu'ils ont connu des meilleurs moments que les 4 derniers matchs, comme l'équipe. Mais en général, j'ai pas un grand problème avec le jeu de Joel Edmondson. En fait, j'en avais plus au début de la saison quand l'équipe allait bien. J'en ai moins quand l'équipe va mal en ce moment. C'est, je trouve qu'il joue du hockey assez solide, puis il commence à comprendre ses limites et comprendre son rôle et comprendre ce qu'il doit faire dans quelle situation. Grosso modo, il commence à sembler plus confortable dans l'équipe, ce qui est tout à fait normal que ça prend une douzaine de matchs avant qu'un nouveau joueur, et particulièrement un gars comme ça, un joueur défensif un peu plus gros format, de s'habituer à un nouveau système. Mais il n'y a aucun doute que Romanov, même si à chaque match, il connaît des séquences qui te sautent aux yeux puis qui sont super impressionnantes pour un joueur recru, les séquences où c'est un peu plus difficile commencent à devenir un peu plus fréquents dans son cas. Brett Kulak aussi, en fait, c'est honnêtement pas aussi smooth que ça a été en début de saison. Puis je me demande si on verra pas Victor Mété contre Toronto samedi soir. Mais c'est vraiment le duo Weber-Sherratt qui est le plus inquiétant en ce moment, parce que c'est le duo c'est beaucoup plus que le trio d'attaquants. Claude Julien et Luke Richardson se fient surtout sur des affrontements défenseurs contre les gros trios adverses. Alors, c'est souvent Weber et Sherratt qui est délégué pour contrer les meilleurs trios adverses. Et s'ils ont de la misère, ça veut dire que il va y avoir des buts dans le filet du Canadien, puis ça arrivait assez souvent dernièrement. Mais c'est surtout eux autres, mais je suis pas trop inquiet pour eux autres. Je pense qu'ils vont trouver une façon de régler leur problème. C'est beaucoup ça à voir avec, à mon avis, une incapacité de sortir, dégager la rondelle de la zone, de faire une bonne première passe, toutes les choses que Weber en particulier est vanté comme étant des forces dans son jeu, sont pas là en ce moment. Mais il va falloir que ça se règle, parce que ce duo-là est tellement au cœur de leur stratégie défensive que si ce duo-là marche pas, il va falloir qu'ils changent la stratégie un peu.
Je vais partager avec nos auditeurs l'esprit du texte que j'ai écrit à la suite du match d'hier soir face aux Oilers d'Edmonton. Parce que je me suis souvenu que Marc Bergevin, quand le Canadien a été éliminé face aux Flyers de Philadelphie, avait dit « Bon, ben c'est intéressant parce que là, on voit que Carey Price et Webby, chez Weber, sont à leur mieux en ce moment. » C'est encourageant parce que la progression de Suzuki et de Kotkaniemi nous donne à croire que on a deux bons joueurs de centre pour 10 à 15 ans. On a un big three en défense. Quand j'entends n'importe qui chez le Canadien décrire Weber, Sherratt et Jeff Petrie comme étant le big three, je trouve que c'est un sacrilège d'une certaine manière. C'est pas un big three, là. Je veux dire, je comprends qu'ils sont meilleurs que les trois autres, d'accord, mais c'est pas du niveau à Robinson, Lapointe et Savard. Je m'excuse. Alors, mais ça, c'était des éléments que le Canadien avait sorti, avait, euh, des conclusions que Marc Bergevin avait extraites du passage de l'équipe dans la bulle à Toronto l'été dernier, en se disant ben, « Au moins, je sais que je peux bâtir là-dessus. Je sais que je peux bâtir avec un premier trio comme celui de Tatar, Dano et Gallagher. Ils ont été constants pour mon équipe depuis 2 ans. Parfait, on peut mettre ça à la banque. » Et là, dans les moments difficiles que le Canadien a passé, et même, je te dirais, avant ça, depuis le début de la saison, mais surtout depuis dans les moments difficiles, tu regardes que c'est ce qui avait l'air d'être les acquis du Canadien avant de commencer la saison, c'est certainement pas ces acquis-là qui font avancer l'autobus. Le trio de Dano a été démantelé. Je ne sais pas si Tatar va revenir au sein de ce trio-là, sauf que j'ai l'impression qu'il y a... il y a quelque chose qui s'est perdu, puis je suis vraiment pas certain qu'on va le retrouver. Peut-être qu'à un moment donné, Claude Julien va faire comme Kurt Muller avait fait quand Muller l'a remplacé dans la bulle, puis il va dire ben on va mettre Dano sur un trio à caractère un petit peu plus défensif. Mais je pense pas que Julien croit que Kotkaniemi est rendu là. Kotkaniemi lui-même aussi, on se dit bon, ben parfait, il a fait tellement de progrès dans la bulle. Motif encouragement, d'accord, sauf que tu regardes en ce moment, il est encore très, très inconstant dans son jeu, autant en attaque que dans la façon dont il gère ses responsabilités défensives. Et puis finalement, ben, tu réalises que ce qui a fait gagner le Canadien jusqu'à maintenant, c'est d'abord et avant tout les nouvelles acquisitions. Ce sont tous les buts de Tyler Toffoli, tous les buts de Josh Anderson, les prestations de Jake Allen devant le filet. Et puis évidemment, le jeu de Jeff Petrie. Sauf que c'est des éléments qui n'étaient pas nécessairement considérés comme étant les acquis, les piliers de cette formation-là. Fait que si le Canadien veut se remettre d'équerre puis se relancer, ça va passer par ceux que la direction et le groupe d'entraîneurs croient comme étant les valeurs sûres de l'équipe. Puis c'est pas le cas en ce moment.
Non, je pense que j'avais appelé à un moment donné le trio de Dano comme étant le doudou de Claude Julien, tu sais, ouais. Security blanket en anglais, tu sais, c'est comme ouais. C'est quelque chose qui est constant, quelque chose qui est réconfortant, le fait que ça soit tout le temps là. Si tu veux changer l'allure d'un match, tu peux sortir, tu peux les envoyer sur la glace, puis ça va donner du momentum à ton équipe, puis ça, il l'a pas. Le trio qui vient le plus proche à ce mandat-là, ou remplir ce mandat-là, c'est le trio de Suzuki. Et surtout, je pense, à cause de Josh Anderson, qui vraiment m'impressionne. Ah oui. Dernièrement, surtout, parce que c'est un gars, tu vois dernièrement pourquoi ce gars-là a tellement une valeur en séries éliminatoires. Quand les matchs sont en... Quand les Canadiens sont en train de perdre en troisième période, ce gars-là, il devient quelque chose de différent. Il devient un monstre, quasiment. Là, c'est contre Edmonton. Ah, c'est ridicule. Contre Ottawa, quand il est revenu de après qu'Austin Watson l'a donné un double échec pour le renvoyer dans la bande, puis il était dans le protocole de commotion, il est revenu en feu. Son équipe a besoin d'un but, puis à chaque fois qu'il était sur la glace, il essayait de marquer 3 buts par présence. Et contre Edmonton, c'était la même affaire. À un moment donné, il s'en allait devant le filet, puis il y avait un défenseur là, je me rappelle pas lequel, puis il l'a juste comme frappé. Et l'a enlevé du filet, puis il l'a fait une autre fois après ça, puis finalement, il a eu une pénalité contre Lagesson, je pense, à quel point il bataillait agressivement, mais c'est ce genre-là d'esprit que tu veux. Et ce gars-là, il l'amène, puis Claude Julien, je l'ai demandé la question vendredi, et c'est honnêtement, c'est après toute une conférence, après tout un appel avec des journalistes, où il parlait des négatifs, des choses qui étaient mauvaises. Finalement, il y avait quelque chose de bon à dire de quelqu'un, puis c'était Josh Anderson, puis il était comme, écoute, j'ai aucun plainte pour ce gars-là. Moi, je suis très content avec la façon qu'il joue, puis il a raison. Mais c'est ça. Mais sans que le trio Dano soit là pour servir comme cette espèce de valeur sûre pour Claude Julien, ça change la donne. Puis c'est effectivement, c'est la seule chose qu'on savait en sortant du camp d'entraînement, la seule chose qu'on savait, c'est que les Canadiens, ils ont un bon trio, puis ils ont un bon duo de défenseur. À part ça, on ne sait pas comment ça va aller. Puis ça donne que le trio et le duo de défenseur en ce moment en arrachent un peu, et c'est assez surprenant. Mais c'est ça. C'est important de dire aussi que c'est pas le fin du monde. Là. C'est 4 matchs. c'est 4 matchs où ils ne jouent pas bien. Il fallait s'attendre à ça. Il n'allait pas gagner 8 matchs sur 10 pendant toute la saison. Mais il y a définitivement des ajustements à apporter. Nous, on va revenir tout de suite après une petite pause pour discuter un peu de ce qui s'est passé avec le petit virus au Centre Bell.
Looking for an assist with your credit card but can't get a hold of anyone? Luckily, with 24/7 US-based live customer service from Discover, everyone has the option to talk to a real person anytime, day or night. Yep, you heard that right. You can talk to a real human in customer service at any time. Sounds like a real game changer if you ask us. Make the right call and get the service you deserve with Discover. Limitations apply. See terms at discover.com/creditcard.
Looking for an assist with your credit card but can't get a hold of anyone? Luckily, with 24/7 US-based live customer service from Discover, everyone has the option to talk to a real person anytime, day or night. Yep, you heard that right. You can talk to a real human in customer service anytime. Sounds like a real game changer if you ask us. Make the right call and get the service you deserve with Discover. Limitations apply. See terms at discover.com/creditcard.
Bon, et bienvenue, on est de retour au sport athlétique. Marc-Antoine, on a eu le luxe, non seulement à Montréal, mais à chacun des 7 villes canadiennes depuis le début de la saison, pendant qu'on regardait un feu qui était en train de rager autour des équipes américaines de la Ligue. Mais nous, on n'était pas touchés par le COVID-19, au moins en ce qui concerne les clubs de hockey de la Ligue nationale au Canada. On n'a pas vraiment eu beaucoup de cas. Il y avait Tucker Pullman à Winnipeg, il y avait Jordy Benn et JT Miller à Vancouver pendant le camp d'entraînement, mais à part ça, zéro. Mais jeudi, on a eu une petite visite de M. COVID au Centre Bell. Comment tu as trouvé le déroulement de la journée, à ton avis? Comment tu as trouvé ça? Puis étais-tu un peu surpris quand tu es arrivé au Centre Bell puis il y avait un match qui était sur le point de commencer?
Ben, écoute, j'ai pas été surpris que le match ait lieu parce que la Ligue nationale, elle est boquée. Ça en prend beaucoup pour la faire changer d'idée puis que finalement qu'elle accepte que des contraintes hors de son contrôle l'empêchent de faire ce qu'elle veut faire. Alors, dans ce sens-là, ça a été annoncé que le match était retardé d'une heure, et que le match entre les Canadiens et les Oilers aurait lieu à 20h au lieu de 19h, ben je m'attendais à ce que la rondelle tombe au centre de la glace à 20h. Alors, à ce niveau-là, j'étais pas surpris. Moi, ce qui m'embête, c'est surtout de voir que la Ligue nationale, dans un protocole qui semble avoir été analysé minutieusement, qui a été discuté avec les joueurs, qui essaie, dans la mesure du possible, de garder tout le monde le plus sûr possible, qu'on garde la porte ouverte à la possibilité que des joueurs se retrouvent sur la glace et participent à un match sans qu'on sache s'ils ont testé négatif ou positif. Ça, alors, et là-dessus, je fais référence à une situation qui s'est produite plus tôt cette semaine dans un match impliquant les Golden Knights de Vegas. L'attaquant Tomáš Nosek était porteur du virus de la COVID-19 et il a passé son test en matinée, mais sauf que le match a eu lieu avant que le résultat de son test soit rendu public, de sorte qu'on a dû le retirer du match, je pense après la deuxième période ou au courant de la deuxième période, et alors qu'il avait déjà joué abondamment sur la glace face aux Ducks d'Anaheim. Et puis évidemment, il a exposé les arbitres, il a exposé l'autre équipe, il a exposé ses propres coéquipiers. Et puis, j'arrive pas à comprendre que la Ligue se place dans une position où ce genre de choses-là peut arriver. Puis ça m'a fait penser à la Série mondiale de baseball, parce qu'en pleine Série mondiale, chez les Dodgers de Los Angeles, le bon ami de Tyler Toffoli, Justin Turner, a été retiré du match où son équipe a gagné la Série mondiale. Il n'a pas été à même de même pouvoir aller sauter sur le terrain en même temps que ses coéquipiers pour célébrer, parce qu'il a été retiré du match parce qu'on avait réalisé qu'il y avait eu un test positif.
Mais finalement, il s'est retrouvé sur le terrain après.
Oui, oui, éventuellement, il est ça. Allé. Il est allé, autre aberration. Autre, ouais. Écoute, à un moment donné, c'est ça. On n'est pas à un non-sens près. Et donc là, dans la situation du Canadien, tu dis, bon, ils ont au moins reporté d'une heure pour s'assurer que les tests, les résultats des tests soient tous rentrés, soient tous conformes. Je vais accepter cette mesure-là. Faut pas non plus couper les cheveux en quatre. Sauf que j'espère que la Ligue nationale a eu sa leçon puis qu'elle ne se replacera pas dans cette position-là parce que le virus a circulé. Il y avait Jesse Puljärvi qui était dans l'entourage des Oilers d'Edmonton qui finalement n'a pas participé à la séance d'entraînement matinale, sauf que les Oilers auraient très bien pu se retrouver. Puis c'est pas dit que ça arrivera pas non plus. On pourrait avoir des surprises dans les prochaines heures. Mais les Oilers auraient pu se retrouver dans une situation où il y a plusieurs joueurs qui sont porteurs, puis qu'il y a des nouveaux tests positifs qui débarquent. C'est une situation que je trouve extrêmement fragile et qui démontre à quel point tout le plan de la Ligue nationale pour pouvoir avoir une saison qui se tient puis une saison qui va réussir à se rendre jusqu'à son terme. Écoute, on marche sur un fil de fer en ce moment.
Oui, en fait, je pense que la situation de Tomáš Nosek à Vegas, il fallait s'attendre que ça arrive parce que dans le fond, c'est pas comme si ce match-là, c'était la première fois qu'ils ont commencé un match sans savoir le résultat des tests qui ont eu lieu le matin même du match. Ça arrivait couramment. C'était normal parce que dans le fond, tu prends peut-être le matin, ça prend plusieurs heures avant d'avoir le résultat. D'habitude, le résultat revient à l'équipe en soirée. Alors, ou tu sais, en début de soirée ou quoi que ce soit. Mais je peux pas croire que Tomáš Nosek est le premier joueur d'avoir participé à un match de hockey cette saison dans la Ligue nationale sans connaître le résultat de son test du matin.
Non, c'est clair que non.
Ça, c'est clair. Alors, une chance que c'est arrivé, pas une chance que c'est arrivé, on ne veut jamais que ça arrive, mais ça démontrait très ouvertement une faille dans le protocole de la Ligue nationale. Puis, je pense qu'à cause de ça, probablement, c'est la raison pour laquelle le match a été retardé entre les Oilers et les Canadiens. Parce que il me semble que je suis pas certain qu'il aurait fait la même chose si jamais il n'y avait pas eu la situation avec Tomáš Nosek deux jours avant. Tu sais, c'est quand même assez étonnant. L'autre chose que j'ai trouvé un peu surprenant, parce que moi non plus, je n'étais pas surpris que le match ait eu lieu, parce que la Ligue nationale a dit que ça allait avoir lieu. La seule chose qui allait arrêter le match, c'est évidemment d'autres tests positifs chez les Oilers, ce qui n'a pas vraisemblablement eu lieu. Mais ce que je trouve un peu étonnant, c'est que personne de la Ligue nationale, personne de l'association des joueurs, personne n'a vraiment communiqué avec les joueurs du Canadien pour leur expliquer ce qui se passait réellement, vraiment. Tu sais, Brendan Gallagher, après le match, qui parle des rumeurs de fausses positives. Paul Byron qui dit qu'il a reçu un texte, mais à part ça, il fallait parler à un soigneur de l'équipe pour avoir les détails de ce qui se passe. Tu sais, c'est comme tu es sur le point de jouer un match, t'as une situation de COVID dans l'équipe adverse, personne ne t'informe de quoi que ce soit. T'as des enfants à la maison, t'as une femme, t'as quoi, peu importe ta situation, tu sais, Brendan Gallagher, il a pas ça, mais Paul Byron, il l'a, Ben Chiarot, il a un petit enfant à la maison. Il y a quand même des, tu sais, tu veux pas rentrer dans un match sans l'assurance ou juste sans l'information de base. Tu sais, moi, si j'étais dans leur position, j'aurais des questions. Il y a combien de positifs? Il y a combien, qu'est-ce qui est arrivé, quand est-ce qu'ils ont été testés, quand est-ce qu'ils vont voir les résultats. J'aimerais savoir ces choses-là si je vais participer dans un match où ils vont voir des sueurs et des salives et toutes sortes d'affaires qui peuvent t'exposer à quelque chose sur une patinoire. Et c'est ça que j'ai trouvé un peu maladroit de la part de la Ligue, de juste pas informer les joueurs qui sont au premier niveau de risque là, de transmission. Mm-hmm. T'sais? Alors, j'ai trouvé ça assez ordinaire, le fait qu'ils ont entamé un match en sachant qu'il y a eu une situation de COVID quelconque chez les Oilers, mais il y avait la même information que nous, on avait. Et ça n'a pas de sens à mes yeux.
Mais tu sais, tu te souviens, là, quand il y a eu toute l'expérience de la bulle cet été, avant que le tournoi se mette en branle, Il y avait énormément d'hésitation de la part des joueurs. Ils comprenaient la nécessité d'organiser le tournoi, d'organiser des séries. Il y avait des impératifs de mener cette saison-là à sa conclusion. Mais il y avait beaucoup de craintes de la part des joueurs. Puis tu réalises qu'aujourd'hui, l'environnement dans lequel cette saison-ci a lieu est beaucoup plus... Il y a beaucoup plus de risques qu'il y ait des fissures que dans les bulles de Toronto et d'Edmonton. Et on est dans un environnement qui est beaucoup moins étanche parce que ça implique les familles, ça implique ça implique des gens dans les déplacements de ville en ville, ça implique un tas de gens. Alors, c'est... Et là, j'ai l'impression qu'il y a comme un espèce de laisser-aller ou de « Ah, ben... » On dirait en anglais, c'est, les gens sont devenus un peu casual par rapport à tout ça parce qu'on s'est habitué à la réalité. Sauf que c'est... Quand tu vois que des matchs commencent à être reportés, puis il y en a eu, écoute, il y a des équipes qui ont été inactives pendant longtemps, les Sabres de Buffalo, les Stars de Dallas il y a quelques semaines. Tout ça, ça s'accumule, ça met en danger l'intégrité de la saison. Ça fait en sorte aussi que ces équipes-là vont avoir à rattraper du retard en peu de temps. Ça va peut-être les exposer aux blessures ou en tout cas peut-être à des matchs où ils vont être moins performants. Il y a un paquet de paramètres qui rentrent en ligne de compte et je me dis, autant les joueurs que la Ligue peut faire encore un meilleur travail pour prendre ça au sérieux puis dire, tu sais, par exemple, la Ligue dit « OK, ben là, on va demander aux joueurs de rester chez eux quand ils ne sont pas à la... quand ils sont pas à l'aréna, quand ils sont pas à l'entraînement. » Moi, je prenais ça pour acquis que c'est déjà ça qu'ils faisaient, là.
Ouais, ben c'est
non.
Ça.
Mais ben non, on dirait que non.
Ben c'est ça, mais l'autre problème avec le protocole, c'est que les joueurs dans chaque ville sont non seulement il faut suivre le protocole de la Ligue, mais il faut suivre le protocole dans la société en général. Puis les protocoles ici au Canada sont bien différents que celui au Tampa, par exemple, tu sais, ou en Arizona, ou en Dallas, ou n'importe beaucoup d'autres villes où c'est beaucoup plus ouvert. Il y a des commerces qui sont ouverts. Tu peux aller manger dans un restaurant dans certains cas. Alors, ça change tellement de ville, de région en région que ça devient difficile à gérer, sauf s'ils donnent ces avis-là, où ils disent qu'effectivement, tu devrais juste rester à la maison ou aller à l'aréna. Si tu ne le mentionnes pas en noir et blanc dans un protocole, un joueur peut juste suivre les règlements qui sont en cours, qui sont en place dans sa ville locale et pas vraiment aller contre le protocole parce que c'est pas écrit en noir et blanc de rester chez toi, mais tu suis les règles de la place où tu es. Tu sais,
il va prendre ce qu'on lui donne là. Il va prendre la corde qu'on lui laisse là.
Ben c'est ça, c'est normal un peu, tu devais critiquer ça nécessairement, mais c'est ça, je pense que c'est pour ça que qu'il pensait qu'il fallait inclure ça parce que les règles sont pas les mêmes tout partout et ça devient un problème à un moment donné. Alors
ce qui est assez fascinant, c'est qu'il y a des équipes de la Ligue nationale, dont le Canadien, qui vont partager leur édifice avec une équipe de la Ligue américaine. Là, le Rocket de Laval lançait sa saison vendredi face aux Sénateurs de Belleville. Mais là, il y a toute une série de mesures qui sont installées à l'intérieur même du Centre Bell que le Canadien va respecter, que ses adversaires vont respecter. Mais il y a aussi toutes il y a comme toute la couche, toute la strate de la Ligue américaine en dessous qui participe à ça également. Puis, à partir du moment où, par exemple, le Canadien fait « Bon, là, on a un problème XYZ qui nous force à réagir par rapport à notre édifice », ben ça a non seulement une incidence sur lui, sur son calendrier, mais ça va avoir aussi une incidence sur le calendrier du Rocket de Laval. Donc, j'écoutais Joël Bouchard l'autre jour qui disait « Ben, écoute, nous, parlez-nous même pas de séries éliminatoires pour la Ligue américaine. On sait même pas si c'est sur l'écran radar de la Ligue d'organiser des séries. Ça va être juste d'avoir notre saison. Mais écoute, c'est pas un gros calendrier. C'est un calendrier qui sera pas le même pour toutes les équipes. Et ça va être encore plus fragile pour les équipes de la Ligue américaine d'arriver à leur fin que ça peut l'être... Pour les équipes de la Ligue nationale. Parce qu'en temps normal, les équipes de la Ligue nationale, quand elles éternuent, c'est leur filiale de la Ligue américaine qui se mouche. Mais là, ça va être encore plus vrai cette fois-ci.
Oui, en parlant du Rocket, nos auditeurs sont en train de nous écouter ou pendant le match du Rocket ou juste après que la saison du Rocket a été entamée au Centre Bell. On est en train d'enregistrer un peu tard en après-midi vendredi à cause de la panne Internet qu'on a mentionnée. Mais je trouve la situation du Rocket assez fascinante. Puis la situation particulière de la Ligue américaine qui tombe à vraiment, honnêtement, un mauvais moment pour les espoirs du Canadien en particulier, parce qu'ils ont tellement... On va commencer à voir beaucoup, beaucoup de leurs jeunes espoirs qu'eux autres, ils ont repêché eux-mêmes, qu'ils doivent développer eux-mêmes. Puis tu as écrit un super texte sur Jake Evans comme étant comme un peu le premier à sortir de l'école Joel Bouchard dans l'organisation du Canadien, mais il va en avoir d'autres. Et c'est à cause de ça que je trouve que c'est intéressant de voir le développement de Jake Evans comme étant peut-être un exemple de l'effet de Joel Bouchard qu'on commence à voir pour vrai. Mais là, tu vas voir comme des gars comme Cam Hillis qui sont là. Tu vois, Caden Gooley est là déjà juste à cause du fait que la Ligue de l'Ouest commence pas. Johnny Fairbrother, Jacob Leguerrier, mais aussi comme Lucas Vedemo, Yann Michak qui est là. Ça se peut évidemment, que ce soit Payling, une équipe... Payling et Fleury et Josh Brooke, qu'on parle jamais de lui, mais c'est quand même... C'est un espoir, même s'il a comme perdu un peu son lustre, là, mais quand même, c'est un gars qui demeure une possibilité pour le Canadien un jour. C'est un gars avec du talent. Mais tu vois, leurs 4 premiers matchs sont contre les Sénateurs de Belleville. Après, ils vont jouer 4 matchs contre le Moose de Manitoba. C'est pas une saison normale, ce qui est bien correct, parce que la vie n'est pas normale, et ils devraient être heureux d'être capables de faire jouer ces jeunes-là dans un environnement quand même assez compétitif. Mais tu t'attends à quoi de cette équipe-là cette année? Parce que c'est la première fois vraiment que le Rocket a un vrai conflit entre le développement et la victoire. C'est vraiment quelque chose qu'il va falloir... Tu sais, comme Joel Bouchard dit tout le temps, si tu fais une erreur dans la Ligue américaine, je te renvoie sur la glace pour apprendre de ton erreur. Mais c'est clair qu'il y a un certain standard qu'il aimerait garder, où ils soient compétitifs, où ils sont capables de gagner des matchs. Tout le monde veut que les jeunes se développent dans un environnement gagnant. Mais là, de plus en plus de ces jeunes-là vont arriver à Laval. Je trouve que ce débat-là va devenir de plus en plus difficile à équilibrer, disons.
Ben, écoute, moi, je ne sais pas si... honnêtement, je ne sais pas si la victoire va avoir une quelconque signification dans la Ligue américaine cette année. Je pense que c'est d'avoir... ça va avoir l'air Boy Scout un peu, mais je pense que c'est la participation. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que...
Tout le monde gagne!
Ben oui, c'est ça, tout le monde gagne.
Tout le monde a un petit médaille, là, vas-y.
Si tu joues, tu gagnes. Non, mais ben, écoute, ça peut avoir l'air con, mais d'une certaine manière, c'est ça. C'est d'utiliser les matchs comme des répétitions. Parce que, dépendant, je t'avoue que j'ai pas regardé en profondeur les alignements de chacune des équipes de la Ligue américaine ou du moins des équipes de la division canadienne. Mais ce que j'observe, c'est que, tu sais, à cause de la présence d'un taxi squad, la stratégie de chaque équipe va être différente l'espace qu'on accorde aux jeunes joueurs dans chaque organisation n'est pas la même. Alors, le Canadien, lui, arrive avec, au sein du Rocket, quand même un bassin assez intéressant de jeunes joueurs qui va pouvoir se développer, mais il va jouer beaucoup de matchs contre le Moose du Manitoba. Mais le Moose du Manitoba, l'année dernière, leur gros joueur, un gars comme Jensen Harkins, pour l'instant, il est avec les Jets, il joue. Un de leurs bons jeunes, Vesalainen, il est sur leur taxi squad. Alors, est-ce que, dans quelle mesure, l'opposition des joueurs du Rocket va être le genre d'opposition qui va leur permettre vraiment d'éclore? C'est pour ça que je dis que la victoire, c'est pas le genre d'année où tu dis, ah ben là, ils vont avoir une fiche extraordinaire, parce que tout le monde va mettre dans leur tête un astérisque sur cette année-là. Je pense que ce qui est important, c'est tu joues des matchs, est-ce que tu t'améliores individuellement, tu améliores tes habiletés, ta compréhension, ta cadence de jeu, tous des éléments dont le Canadien va avoir besoin, parce que tu as des gars qui cognent à la porte, Fleury puis Payling, qui faisaient partie de l'escouade de réserve jusqu'à tout récemment, c'est des gars qui sont proches de la Ligue nationale, puis dans le fond, ils attendent pratiquement juste qu'il y ait des contrats qui se terminent, surtout dans le cas de Payling, tu sais, il va avoir sa chance bientôt. Alors, c'est juste une période de transition, mais il faut qu'il... ça va revenir à chaque joueur de saisir ces moments-là, puis de vraiment de tirer profit au maximum de ces matchs-là, beaucoup plus que le contexte gagnant dans lequel il devrait se développer dans une saison normale, parce que je pense pas que ça s'applique cette fois-ci.
Non, je pense que tu as raison, mais je pense que, en tout cas, je trouve que le Rocket de Laval, c'est l'édition du Rocket le plus intéressant qu'on a vu depuis, définitivement depuis qu'ils sont à Laval, et vraiment depuis que l'époque où on avait Piquet Subban et Carey Price et Brendan Gallagher.
Depuis avec les Bulldogs.
C'est ça. Depuis longtemps que le filial du Canadien était pas aussi intéressant que ça. Ça commence à l'être maintenant, puis ça va juste continuer avec peut-être un Jordan Harris l'année prochaine ou qui sait, je sais pas. Il y a tellement d'options de, tu sais, peut-être un jour avoir un Matthias Norlander dans les deux prochaines années. Ça commence à devenir un peu intéressant. Ça commence à devenir moins des gars comme Kevin Lynch et Stéphane Veilleux, tout respect à eux autres, là, mais et plus des gars qui ont un avenir avec les Canadiens. Et ça, je pense, pour les partisans et pour l'organisation, c'est super le fun.
Absolument.
Alors, écoute, je voulais passer à notre minute de patrimoine.
Oui.
On cherche toujours un commanditaire pour la minute du patrimoine. Alors, si jamais vous êtes une commerce canadienne qui aimerait ça, avoir l'effervescence et toute la visibilité qui offre la minute de patrimoine sur le sport athlétique, contactez-nous. Mais moi, je vais commencer, si ça ne dérange pas. Moi, je voulais commencer à Winnipeg.
Okay.
Moi, je trouve ça super intéressant, la façon que Pierre-Luc Dubois doit s'intégrer aux Jets de Winnipeg, parce que l'échange, étant donné que l'échange a été comme forcé et que des deux bords, que les Jets se sont débarrassés d'un joueur qui ne voulait plus être là, les Blue Jackets se sont débarrassés d'un joueur qui ne voulait vraiment plus être là, ça leur a forcé de faire cet échange-là dans une situation de quarantaine, de pandémie. Et tu vois les deux premiers matchs que Pierre-Luc Dubois a joué avec les Jets, puis c'était pas facile. Puis je comprends dans les circonstances. Ça arrive. Il joue pas à son meilleur. Il doit apprendre un nouveau entraîneur, des nouveaux coéquipiers, nouveau système, nouveaux adversaires, nouveau tout. Au moins, il connaît la ville. Au moins, il a passé pas mal l'entre-saison là à cause du fait que ses parents habitent là. Mais je trouve ça fascinant parce que je me demande à quel point les autres équipes canadiennes sont en train de regarder combien de temps ça va prendre à Pierre-Luc Dubois de prendre son élan avec les Jets quand les autres, il faut considérer faire des échanges pour améliorer leurs équipes avec des équipes américaines. Est-ce que sa performance ou la rapidité avec laquelle il peut s'intégrer au groupe, est-ce que ça va avoir une influence sur les autres équipes canadiennes et est-ce qu'ils vont peut-être penser deux ou trois fois avant, à cause si jamais Pierre-Luc Dubois prend deux ou trois semaines avant qu'il commence à vraiment jouer comme il est capable?
Mm-hmm.
Je me demande si les autres DG autour du Canada vont se demander « Hey, OK, c'est pas un joke, là. Deux semaines de quarantaine, ça peut vraiment avoir ça devient plus 4-5 semaines d'impact sur ton équipe. Pas juste les deux semaines de quarantaine, mais il y a tout le temps que ça prend pour ce joueur-là de se remettre en forme, de se remettre en rythme. Et alors, c'est pour ça que je garde un œil particulièrement à chaque fois que les Jets jouent. J'aime ça voir comment Dubois a joué, juste parce que je pense qu'il y a beaucoup de DG qui regardent cette situation-là en ce moment.
Oui, mais surtout qu'il y a eu. Je pense que les données s'accumulent au fil des ans à l'effet que les transactions à la date limite des échanges, les gars que tu vas chercher, les équipes qui se croient dans la course, là, qui vont se renforcer à la date limite des transactions, l'impact des nouveaux arrivants est souvent surestimé à ce moment-là de l'année. Puis souvent, les prix qui sont exigés s'avèrent plus grands que le bénéfice que les équipes en retirent. Mais oui, t'as raison de regarder du côté de Winnipeg. Puis moi, tu parles de Dubois. Cette transaction-là, ce qu'on n'a peut-être pas vu venir, c'est à quel point ce serait Jack Roslovich qui serait vraiment le joueur clé à court terme dans la transaction. Mais écoute, il y a le petit gars de la place à Columbus qui, 4 buts, 9 points en 8 matchs, si les Jets pensaient qu'il leur manquait un joueur de centre, mais ils en avaient un dans leur cours qui ne demandait pas mieux que de se faire donner un peu plus de temps de glace. Fait que c'est
ouais, mais assez ironique. Oui, mais il voulait rien savoir. Jack Brasovic, c'était fini à Winnipeg. Il voulait pas, il voulait même pas signer un contrat. Alors, il y avait vraiment pas de... Il y avait plus d'options avec lui. Mais oui, c'est quand même assez drôle de voir des trois joueurs de l'échange en ce moment. C'est le meilleur... Le gars qui joue le mieux en ce moment, c'est définitivement Brasovic.
Exact. Écoute, moi, je vais nous déménager à Calgary. En fait, ce qui m'a frappé, je vais simplement traduire en mots un tweet d'un de nos collègues, Darren Haynes, qui a soumis une observation très intéressante. Tu sais, on a parlé, tu parlais la semaine dernière, justement, tu te faisais, avec délice, tu parlais des ennuis des Canucks de Vancouver, et Dieu sait que leurs ennuis se poursuivent. Ils ont évidemment perdu Jacob Markstrom devant le filet, puis ça fait une grosse différence pour eux. Mais ils ont également perdu Chris Tanev en défense. Puis Chris Tanev, nous, on le connaît pas beaucoup. C'est pas un gars que les gens dans l'Association Est voient très souvent. Mais il a un effet stabilisateur que notre collègue Darren a vraiment bien rendu. Il a mis en valeur le fait que l'année dernière, Tanev jouait principalement avec Quinn Hughes. Et après 16 matchs l'année dernière, Quinn Hughes était sur la glace pour 13 buts à force égale de l'adversaire, alors que ça a monté à 26 cette année. Tandis que cette année, à Calgary, Chris Tanev joue avec Noah Hanifin. Puis après 12 matchs l'année dernière, il y avait 13 buts contre, dis-je, quand Hanifin était sur la glace avec les Flames, puis ça a baissé à 4 cette année. Donc Tanev, en tant que défenseur conservateur qui laisse son compagnon en défense s'exprimer, a l'air d'avoir vraiment un impact très, très positif sur le nombre de buts qu'on accorde à l'adversaire. Donc, tu sais, c'est sûr, tout le monde va parler de Markstrom parce que c'est le gardien vedette, etc. Mais des fois, l'insertion d'un joueur qui est un peu plus discret, ça peut quand même avoir un effet quand même assez significatif. Puis je pense que c'est le cas pour Chris Tanev avec les Flames de Calgary. Écoute, Harpin, je voulais qu'on fasse jouer en terminant les deux messages vocaux qu'on a retenus pour cette semaine. Je dois préciser à nos auditeurs. Là, le Super Athlétique, cette semaine, c'est en français. La semaine prochaine, c'est en anglais. Mais vous pouvez nous envoyer vos questions en anglais ou en français. On va prendre les deux. Mais là, n'oubliez pas, s'il vous plaît, on va faire passer une question d'un auditeur qui était clairement francophone. Puis il a décidé de nous poser sa question en anglais, ouais. Même si on va la passer dans un épisode en français. Fait que c'est un petit peu mélangeant, mais c'est pour ça qu'on navigue avec vous à travers tout ça. Mais soyez bien à l'aise, utilisez votre langue maternelle, puis nous, on va s'arranger pour faire arrimer tout ça. Il n'y aura pas de problème. Alors, sans plus tarder, on va passer à la première question.
My name is Vincent, and my question is just a small comparison between Kotkaniemi and Suzuki. We know that Suzuki has been great ever since he started with the Canadian last year and just continued with that trajectory to what he is today. But looking at Kotkaniemi, even though kind of forgetting the number of seasons and number of games he did in the NHL, I just want to compare that he's, I think, 20-year-old right now and compare Suzuki last year at 20-year-old and where Suzuki was last year in comparison to where Kotkaniemi is this season. Watching the games, I can see that Kotkaniemi has made huge steps forward. And some can argue that maybe it's not enough with the third overall pick, but yeah, I'm pretty satisfied with what he's doing. So I just want to see the comparison at which, what was the expectation with Suzuki last year and then, or last season, and Kotkaniemi this season, what you think about KK's growth, and in comparison, can we expect comparable growth in comparison to Suzuki for next season, or is it entirely two different beasts?
Donc finalement, c'est une question très intéressante. C'est de comparer le Kotkaniemi de cette année avec le Suzuki de l'année dernière. Quand on regarde les âges, là, est-ce que tu vois Est-ce que tu vois quelle sorte de similarité ou de courbe, si tu veux, de courbe d'évolution que tu vois chez les deux joueurs à leur âge respectif?
Ben, c'est facile à oublier que Suzuki a commencé l'année sur le quatrième trio à l'aile avec Nate Thompson. Tu sais, il a commencé à montrer qu'il pouvait prendre plus que ça. Mais au tout début, là, c'était pas comme si c'était un joueur dominant. Il apprenait. Il avait des missions un peu plus protégées, disons. Il faisait pas face à de l'opposition très, très difficile. En fait, c'est quand même frappant de voir à quel point, dans plus qu'un an, mais quand même dans une saison, dans l'espace d'une saison, comment les responsabilités de Suzuki a changé, parce que ça a l'air tellement loin de penser au début de la saison dernière, mais tu sais, en termes hockey, ça fait juste une saison qui a commencé l'année sur un quatrième trio à l'aile droite. C'était comme vers le mi-novembre, en fait, pas mal quand Jonathan Drouin et Paul Byron se sont blessés à Washington. Oui. Où la question commençait à se demander s'il devrait remplacer Max Domi comme joueur de centre. Mais si tu compares cette version-là de Suzuki aux versions qu'on voit en ce moment de Kotkaniemi, qui, depuis quelques matchs, a de la misère à créer des choses, il ne provoque pas grand-chose offensivement dernièrement. Il y a des petits flashs de son talent de temps en temps, mais c'est pas assez, c'est pas assez constant et c'est pas aussi... C'est pas sur une base... en tout cas, il crée pas beaucoup de chances à marquer en ce moment. Mais je pense que la même chose pourrait être dit de Suzuki l'année passée, si tu veux faire la comparaison comme ça. Moi, je pense que le développement de Kotkaniemi, c'est un des facteurs les plus importants du Canadien cette année. Ça va être très important que Claude Julien soit capable d'être patient avec lui parce que... Et ça va être difficile parce que il y a tellement d'attentes sur cette équipe-là, non seulement des partisans, mais de Marc Bergevin lui-même qui s'est pas gêné pour dire que nous, on s'attend à aller loin là, avec cette équipe-là. Alors, ça va être très difficile pour Claude Julien de se montrer patient avec un jeune Kotkaniemi si jamais il connaît des baisses de régime qui sont un peu plus prolongées. À quel point est-ce qu'il y a le luxe de le laisser dans l'alignement? La seule chose qui fonctionne pour Kotkaniemi et pour rester dans l'alignement, c'est que Ryan Poehling est à Laval. Il n'y a pas vraiment des options au centre sur le squad de réserve, là, le taxi squad.
Non.
Alors, les options de le remplacer sont compliquées à cause du plafond salarial et tout ce qu'on a vu avec Corey Perry qui descend et redescend. Tous les enjeux du plafond salarial vont probablement faire en sorte que ça va être difficile pour Claude Julien de le retirer de la formation. Mais j'espère pour le développement de Kotkaniemi et effectivement pour l'organisation que Claude est capable de montrer de patience. Ce que je pense, c'est le cas en ce moment parce qu'il n'y a pas vraiment eu une baisse d'utilisation pendant cette baisse de régime en ce moment. Là, c'est Claude Julien continue à sortir puis continue à le mettre sur la glace. Alors, on verra. Mais qu'est-ce que tu penses à cette question-là?
Ben, j'ai l'impression que c'est... Quand tu décides de comparer en fonction de l'âge, on ne regarde peut-être pas le bon paramètre. Parce que je comprends l'exercice de vouloir dire, bon, ben, au même âge, où est-ce qu'ils sont rendus? Sauf que ce qui rentre le plus en ligne de compte, c'est Jesperi Kotkaniemi en est à sa troisième saison à Montréal. Puis dans sa tête, il doit se dire, peu importe l'âge qu'il a, je suis rendu à ma troisième saison à Montréal, je devrais être rendu à telle place, où on m'a confié l'année dernière le poste de centre de troisième trio, puis là, un an plus tard, je suis au même point, puis est-ce que je vais régresser encore comme j'ai régressé l'année dernière, puis je me suis ramassé à Laval en toute fin de saison? Je pense qu'il y a un gros aspect psychologique sur qu'est-ce qui est attendu de toi, quels sont les objectifs que le joueur lui-même se place, et puis, par rapport à ça, ben, on peut... Tu pourrais placer le résultat sur glace de deux joueurs, des résultats qui seraient identiques, puis seraient abordés complètement différemment, strictement à cause des attentes qui sont placées en eux. Puis, je pense que Suzuki avait beaucoup moins de pression quand il est arrivé l'année dernière. C'était d'une certaine manière une surprise qu'il se taille un poste avec l'équipe. Et puis, on l'a intégré en douceur, puis il a pris... Il a vraiment pris son envol au fur et à mesure. Ça a été une belle histoire, mais je pense que dans tout ça, ce que ça nous ramène, c'est de nous dire ben, il faut faire attention, il faut y penser deux fois avant d'intégrer un joueur de 18 ans à la Ligue nationale, parce que toute l'expérience que Suzuki a gagnée à l'extérieur de la Ligue nationale, dans un contexte où c'était lui la locomotive de son équipe, où il a charrié son équipe en séries éliminatoires, la Coupe Memorial, etc. Je pense que ça a fortifié sa confiance en lui, puis il est débarqué chez le Canadien avec, oui, des choses à prouver, mais avec très peu d'attentes, où il n'y avait pas le néon du tout récent premier choix au pêchage, tout shiny que Kotkaniemi avait. Puis je pense que ça a placé les deux joueurs dans des situations bien différentes. Alors, à mon avis, c'est plus important, ça a un plus gros impact que l'âge des deux joueurs.
Okay.
Bon, écoute, on va passer à la prochaine question.
Bonjour messieurs, c'est le beau Jean qui vous parle. Avant toute chose, félicitations pour votre podcast. En fait, surtout pour le format de votre podcast, c'est une belle alternance de français et d'anglais. Pour moi, ça c'est Montréal à son meilleur. Alors un beau bravo à vous deux. Sinon, ben écoutez, je veux vous inviter à jouer les Mythbusters aujourd'hui, suite à une conversation que j'ai eue avec mon frère Philippe concernant Maurice Richard. Quand on regarde les statistiques de la carrière de Monsieur Richard, il m'apparaît comme un très bon joueur, oui, un très bon compteur, un bagarreur aussi. Mais quand on regarde vraiment les chiffres, on s'aperçoit que ses meilleures années, les années vraiment significatives en termes de points, notamment les fameux les 50 buts en 50 parties, ben ces années-là, elles ont été réalisées pendant que plusieurs des meilleurs joueurs de la Ligue nationale étaient enrôlés dans l'armée durant la Deuxième Guerre mondiale. Je pense pas qu'on doive nécessairement en vouloir à M. Richard de ne pas s'être présenté dans l'armée à cause des blessures qu'il a subies en début de carrière. Okay? Mais je me demande s'il mérite quand même tout cette aura qui entoure le personnage du Rocket. En fait, ma question, c'est Maurice Richard était-il réellement l'un des plus grands joueurs de l'histoire de la Ligue nationale ou simplement un genre de Keith Kachuk qui aurait atteint son zénith exactement au bon moment alors que la compétition était la plus faible autour de lui? Merci, j'ai hâte de vous entendre.
Oh, quelle bonne question!
Wow! OK! Alors, est-ce que Maurice Richard est surestimé, à ton avis, Marc-Antoine Godin? veux-tu, je vais te laisser répondre à celui-là en
premier.
Ouais,
c'est ça. OK, d'accord. Mais en plus, il m'interpelle parce que Keith Kachuk était un de mes joueurs préférés quand j'étais enfant. Mais cela dit, écoute, je comprends tout à fait l'argument à l'effet que la Ligue nationale était... Le produit ou la compétition à l'interne dans la Ligue nationale a été amoindrie durant la Deuxième Guerre mondiale. C'est vrai qu'il y a plusieurs joueurs, plusieurs vedettes établies qui ont quitté, qui sont allés au front. Sil Apps, entre autres. Je pense que même Doug Harvey s'est absenté justement durant la Deuxième Guerre mondiale. Il y a eu plusieurs joueurs qui n'étaient pas là. Est-ce que ça met pour autant une astérisque sur la saison de 50 buts en 50 matchs de Maurice Richard? Moi, je trouve que non. Parce qu'il faut quand même que tu le fasses, là. Puis ouais. Il faut aussi, si ça avait été sa seule saison, tu sais, où il avait été complètement explosif. Par exemple, un exemple très récent, le lockout de 2004-2005. Quand il y a des joueurs qui sont revenus, nouvelle application des règlements, du jeu beaucoup plus ouvert. Il y a plein de joueurs qui ont fait une fortune en récoltant beaucoup de points la saison 2005-2006. Puis après ça, on a réalisé que c'était la saison de leur carrière. Tu considères leur chiffre de cette année-là comme étant vraiment un accident de parcours. Mais Maurice Richard, c'est 43 buts quelques années plus tard, 42 buts une autre après. Écoute, je ne peux pas croire que je suis en train de défendre, j'ai besoin de défendre ce point-là. 544 buts au total pour Maurice Richard. Et c'est pas seulement son rendement sur glace qui fait de lui un joueur plus grand que nature. En fait, je te dirais même que c'est surtout pas ça. C'est ce qu'il représente. C'est le fait que c'était le Québec debout qui se voyait à Maurice Richard. C'est le symbole qu'il a représenté. Et avec tout le respect que j'ai pour Keith Kachuk, qui a marqué lui-même 40 buts puis qui se battait, ben il n'y a pas grand monde qui voyait en Keith Kachuk le héros d'un peuple. Alors, je suis désolé, mais pour moi, c'est comparer des pommes et des oranges. Et je vais conclure ma petite litanie en remerciant tous les joueurs de la Ligue nationale qui sont allés au front durant la Deuxième Guerre mondiale.
Ouais, je suis tout à fait d'accord. J'ai pas grand-chose à ajouter, sauf que tu sais, il n'y a pas eu une émeute Keith Kachuk. Tu sais, c'est comme quand t'as une émeute qui porte ton nom, là, ça veut dire que t'as fait quelque chose d'un peu spécial. Alors, c'est honnêtement, son rendement sur la glace, tu sais, quand tu parles de quelqu'un qui représente un peuple, son rendement sur la glace est intimement lié à ça. Tu sais, c'était un peuple qui avait besoin de voir quelqu'un avoir du succès dans le monde anglophone, de montrer qu'on est capable. Tu sais, c'est comme de montrer que nous aussi, on peut faire des belles choses, on peut avoir des succès. Et Maurice Richard représentait ça pour les Québécois. Alors, c'était tout un joueur de hockey. Honnêtement, c'est drôle de le dire, là. Maurice Richard était tout un joueur de hockey.
mais tu sais, je pense que... Puis, tu sais, regarder les statistiques, c'est une chose, mais je pense qu'il y a aussi la manière, il y a le comment. Puis ça, je pense que c'est symptomatique aussi de la façon dont on regarde le hockey aujourd'hui, parce qu'on est tellement porté à regarder les statistiques avancées, puis à dénigrer ce qu'ils appellent en anglais le « eye test », que si tu remontes aux années 40 puis aux années 50, c'est correct de dire « regardez les buts et les passes de chaque joueur », sauf que la manière, ce que les gens étaient capables, ce à quoi ils assistaient, puis ce qu'on leur racontait aussi à la radio, je pense que ça a contribué à gonfler le personnage. Puis à ce niveau-là, Maurice Richard n'est pas le seul, parce que même Gordie Howe, écoute, on a-tu gonflé la ballonne de Gordie Howe? On appelle un tour du chapeau à la Gordie Howe, un joueur qui marque un but, a une mention d'aide, puis un combat. Gordie Howe a eu 2 tours du chapeau à la Gordie Howe dans sa carrière. Rick Tocchet en a eu 18. Ça devrait être le tour du chapeau à la Rick Tocchet.
En fait, c'est très approprié de comparer Gordie Howe à Rick Tocchet et Keith Kachuk à Maurice Richard. Là. C'est vraiment, c'est vraiment parfait. Bon, écoute. C'est honnêtement, c'est une super bonne question, puis on apprécie la question. C'était bien présenté comme argument, mais je suis juste entièrement pas d'accord avec tout le concept, parce que c'est pas comme si... en tout cas, tu peux regarder plein d'autres joueurs de cette époque-là, puis ils n'ont pas la même présence, disons, que Maurice Richard a dans l'histoire d'une équipe ou dans d'une ligue, puis ils n'ont pas un trophée qui porte son nom. Alors c'est ça. C'est tout ce que j'ai à dire là-dessus.
Mais s'il vous plaît, rappelez-nous, posez-en d'autres des questions, laissez-en des messages. Écoute, je voulais, d'ailleurs, à ce sujet-là, je rappelle à tout le monde, à tous nos auditeurs, s'il vous plaît, laissez-en des messages. On vous laisse le numéro de téléphone pour nous joindre. Alors, vous pouvez laisser un message au 424-703-3859. Écoute, ça coule tout seul dans ma bouche. 424-703-3859. Donc, c'est ça. En anglais, en français, vous avez juste à laisser votre nom. Puis, c'est ça. Gardez votre question courte, mais punchée, puis on va essayer d'y répondre. On va essayer d'avoir des réponses courtes également et le plus punchées possible. Alors, sur ce, on vous remercie tout le monde d'avoir été à l'écoute. Merci, Arpin. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine pour une autre édition du Super Athlétique avec The Athletic Support. Bye-bye, tout le monde! Mm-hmm.